Bonsoir. Clôture ce mercredi à Kinshasa de la tripartite CENI-CNSA gouvernement. Les trois partis recommandent à la CENI de publier sans tarder un calendrier électoral réaliste et de lancer l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a réaffirmé sa détermination d'organiser les meilleures élections de l'histoire du pays dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre. Comment analyser les recommandations issues de cette tripartite? C'est la question de ce débat et nous en parlons avec Cham Baloumé. Il est cadre de l'UCP, parti politique de la majorité présidentielle. Il est aussi communicateur de cette plateforme. Il a pris part à la tripartite. Bonsoir, Monsieur Cham Baloumé.
Bonsoir.
Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition, il est leader du parti pour la renaissance du Congo, RECO en sigle, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Bonsoir, honorable Albert Fabrice Puella.
Bonsoir, Guy Mathieu.
Et Christian Moleka, il est coordinateur de la dynamique de politologue de la RDC. Bonsoir, monsieur Christian Moleka.
Bonsoir, Guy Mathieu.
Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Clôture hier mercredi tard dans la soirée à Kinshasa de la tripartite CENI-CNSA gouvernement. Les trois partis recommandent à la CENI de publier sans tarder un calendrier électoral réaliste et de lancer l'enrôlement des Congolais de la diaspora. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a réaffirmé sa détermination d'organiser, je cite, « les meilleures élections de l'histoire du pays dans le respect de l'accord de la Saint-Sylvestre ». Fin de citation. Bruno Tshibala dans ses propos recueillis par Michel Kifindangoy.
Dispose maintenant, à l'issue de ses travaux d'évaluation, de tous les éléments nécessaires pour préparer et publier dans le plus bref délai le calendrier électoral en vue de paver et de baliser le chemin qui va conduire le peuple congolais vers les meilleures élections de l'histoire récente de notre pays. Le régime démocratique et républicain que nous avons choisi ne peut s'enraciner dans notre société que par la tenue des élections à intervalles réguliers et qui soient transparentes et crédibles. C'est pourquoi le gouvernement fera tout ce qui est possible pour remplir toutes les obligations en rapport avec l'organisation des prochaines élections, telles qu'elles sont prévues dans l'accord politique du 31 décembre 2016. J'espère que la communauté internationale fera de même en ce qui concerne ses propres engagements qu'elle a souscrits en vue d'apporter son soutien matériel et financier au processus électoral en cours dans notre pays. En attendant la publication imminente du calendrier électoral, je lance un appel à tous les Congolais de rester calmes.
Cham Baloumé, cadre de l'UCP, parti politique de la majorité présidentielle, vous êtes aussi communicateur de cette plateforme. Vous avez pris part, n'est-ce pas, à la tripartite. Les travaux se sont clôturés hier. Il était question d'évaluer le processus électoral. Comment la tripartite a évalué ce processus électoral?
La tripartite qui s'est tenue pour la deuxième fois, parce que la première fois elle s'est tenue à Kananga, entre les trois composantes, conformément à l'accord du 31 décembre 2016, à son chapitre 4.2, il a été question d'évaluer l'allure de l'accord. Et cela a porté sur une analyse sur le plan administratif, juridique, sur le plan technique, sur le plan financier, mais aussi sur le plan politique, opérationnel et sécurité. Ce sont des travaux qui sont arrivés pour évaluer dans la large, n'est-ce pas, conception et aussi dans la vision et dans le cadre de l'accord du 31 décembre.
Et concrètement, vous avez évalué ces processus et comment qu'est-ce que vous dites? Le processus évolue normalement ou il connaît quelques problèmes?
En ce qui concerne l'évolution du processus, le processus évolue normalement, mais il faudra aujourd'hui que le peuple congolais soit fixé sur le fait que nous ne pouvons pas aller aux élections sans que les fichiers électoraux soient complètement, n'est-ce pas, soient complétés par les Kassai. Nous avons une partie de notre population au niveau du Kassai qui n'est pas encore enrôlée, mais nous avons également des contraintes pour que nous puissions arriver aux élections, c'est-à-dire à la pratique des urnes, n'est-ce pas, à cette gymnastique démocratique. Nous, avant d'arriver à ce que nous appelons ramassage et agrégation des résultats, n'est-ce pas, qui est l'avant-dernière étape, nous devons avoir la répartition des sièges par circonscription, et ça c'est juste après avoir eu, n'est-ce pas, les fichiers électoraux in globo, c'est-à-dire en globalité, y compris les électeurs du Kassai. Il y a l'inscription des candidatures qui suivra, il y a les commandes de production, de livraison de matériel sensible. Et après, il y aura déploiement du matériel.
Voilà, donc tout ça, c'est des préalables pour qu'il y ait élection.
Tout à fait.
Monsieur Cham, l'accord de la Saint-Sylvestre recommande au CNSA d'apprécier consensuellement avec les gouvernements et la CENI le temps nécessaire pour le parachèvement des élections. Et par rapport à cette question, l'opinion peut retenir quoi?
Par rapport à cette option, l'opinion doit retenir qu'aujourd'hui, il n'y a rien qui est en train d'être créé ou qu'il n'y a rien qui est en train d'être inventé. Parce que, en fait, tout ce qui se fait aujourd'hui est la résultante des pourparlers et de l'Union africaine et des centres interdiocésains. Il n'y a rien qui est en train d'être créé parce que vous allez vous souvenir que au dialogue de la cité de l'Union africaine, le président de la CENI avait été invité en tant qu'organe technique. Il avait exposé sur ce qui était de préalable, n'est-ce pas, pour que soient tenues des élections libres, transparentes et démocratiques. Il avait été aussi question, n'est-ce pas, d'évaluer sur combien de temps, n'est-ce pas, ces élections devaient être organisées. Et donc, aujourd'hui, il n'y a rien qui est inventé, mais tout est la résultante des accords que nos acteurs politiques ont signé autour d'une même table.
Voilà, tout découle de ces accords-là. Mais concrètement, qu'est-ce qui a été dit au sujet de la tenue des élections? La tripartite a-t-elle maintenu l'organisation des élections au mois de décembre 2017 ou elle a décidé de les reporter au-delà de décembre 2017?
Ben, déjà, quand vous-même vous parlez que c'est conformément à l'accord, n'est-ce pas? Dans l'accord, il est prévu d'organiser les élections au mois de décembre 2017, mais il y a, n'est-ce pas, la suite de cet article. C'est tout ce qui est en train de semer la confusion, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui n'interprètent pas dans la totalité, n'est-ce pas, les chapitres, n'est-ce pas, les chapitres 3, hein, les chapitres 4.2 de l'accord du 31 décembre 2016.
Justement, hein. M. Cham, justement, c'est ça la question. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que la tripartite a décidé de maintenir les élections en décembre 2017 ou elle a décidé de les reporter au-delà de 2017? Parce que c'était ça, en fait, l'attente de l'opinion.
Et vous avez suivi le Premier ministre dans ses propos. Il a dit qu'il exigeait, n'est-ce pas, ou qu'il attendait la publication imminente, n'est-ce pas, d'un calendrier électoral. C'est donc en ça que nous devons nous tenir à l'instant.
Et donc, on ne sait pas s'il y aura élection au mois de décembre 2017.
Ben, écoutez, c'est pas qu'on ne sait pas. Il y a un calendrier électoral qui devra être publié par l'institution compétente qui est la CENI. Et donc, il faut attendre le calendrier.
Albert Fabrice Puella, député national de l'opposition, vous êtes leader du parti pour la Renaissance du Congo, RECO en sigle, membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement. Comment analysez-vous les différentes recommandations formulées par la tripartite lorsque, par exemple, elle demande, n'est-ce pas, la CENI de publier un calendrier électoral réaliste?
Merci beaucoup. Je tiens à saluer d'abord tous les compatriotes qui nous suivent ainsi que nos co-débatteurs. Nous avons suivi avec les autres ce qui s'est passé justement au Palais du Peuple. En ce qui nous concerne en tant que membre de l'opposition politique, en tant que membre de la dynamique de l'opposition et du rassemblement, nous savons que d'un vide ne peut rien sortir. Lorsque l'accord du 31 décembre a été vidé de tout son contenu, lorsque cet accord a été tripatouillé dans sa forme et dans son fond, dans son application, que fallait-il encore attendre d'une certaine tripartite? Lorsque l'on sait déjà par la forme, la tripartite aurait dû être présidée par le président du CNSA, mais curieusement, et nous sommes dans la forme, c'est le Premier ministre qui a présidé cette tripartite. Premier ministre supposé être ici justement de... Premier ministre supposé avoir été recommandé ou ici du rassemblement présidé par les présidents du CNSA. Alors, comment peut-on justifier que jusqu'à ce jour d'abord, le fameux CNSA n'a pas encore eu du contenu, il n'y a même pas encore la fameuse loi portant organisation et fonctionnement du CNSA n'a jamais été votée au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous voyons cette structure qui est en train d'évoluer. Comment peut-on vraiment évoluer dans un désordre indescriptible comme c'est celui-là? C'est inadmissible. Alors, sur le plan du fond, n'est-ce pas que la tripartite était chargée d'évaluer le processus électoral de manière globale et de proposer une date éventuelle lorsque la première, c'est-à-dire celle fixée dans l'accord, n'est pas possible. La tripartite s'est contentée de créer une illusion en faisant de la tenue des élections en République démocratique du Congo comme une utopie, comme un mirage pour les peuples congolais. Par conséquent, en tout cas, à ce qui nous concerne, comme membres de l'opposition politique, nous rejetons ce qu'elle a produit comme communiqué final, comme ce que la tripartite a produit comme communiqué final, et nous nous en tenons à notre position à nous, c'est-à-dire une transition sans M. Kabila. C'est clair pour nous ce qui a été fait, tripartite. Nous savons, avant même d'arriver à une quelconque tripartite, nous aurons dû avoir une vraie volonté de toutes les parties, en commençant par le président de la République, une vraie implication pour organiser des élections. On crée des troubles dans une région du pays pour créer l'élasticité du processus d'enrôlement des électeurs. Et on y va pour, semble-t-il, créer la paix. On rend vraiment le processus très compliqué. Et de la part du gouvernement, on ne sent pas une grande implication pour organiser des élections. Et là, parlons-en.
Honorable,
oui.
La tripartite n'a ni maintenu les élections à la fin de cette année, ni les reporters de la de 2017. Peut-on dire que la tripartite ne s'est pas conformée à la recommandation de l'accord qui lui demande, n'est-ce pas, d'apprécier consensuellement les temps nécessaires pour le parachèvement des élections?
Effectivement, et je ne vous le fais pas dire, on devrait évaluer. Voici d'où nous sommes partis. Voici les difficultés que nous avons rencontrées. Voici ce qui reste à faire. L'accord de la Saint-Sylvestre nous imposait d'organiser des élections au plus tard le 31 décembre. Voici les difficultés auxquelles nous avions eu à faire face. Et compte tenu de cela, nous pensons que nous pouvons aller au-delà. Comment comprendre qu'en moins de 3 mois de cette échéance, nous n'ayons pas encore un calendrier électoral? C'est une première. Et lorsque le Premier ministre vient dire qu'il veut organiser les meilleures élections que la République démocratique du Congo n'ait jamais organisées, mais qui lui donne cette attribution-là d'organiser des élections? Est-ce qu'il revient au gouvernement d'organiser des élections ou à la CENI? Voilà pourquoi nous disons que nous n'avons confiance ni à cette CENI qui a démontré sa partialité, ni à ce gouvernement qui ne veut pour rien au monde organiser les élections, encore moins au président de la République, parce que toutes ces institutions ne veulent pas de ces élections et ils veulent se maintenir au pouvoir et continuer à réduire la République démocratique du Congo au statut de la risée du monde. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter en tant que membres de l'opposition. C'est pourquoi nous estimons qu'au 31 décembre, tout devra s'arrêter parce que rien, alors, il n'y a pas eu de force visible pour que le pays puisse avancer, pour que nous ayons les processus électoraux que nous attendons. Les élections ne sont pas une faveur que nous demandons, comme quelqu'un a eu le courage, qui a eu l'outrecuidance de dire que je n'ai jamais promis des élections. Est-ce que la République démocratique du Congo a besoin d'une promesse d'élection où nous voulons que tout le monde s'implique au regard de la Constitution, au regard de l'accord entre nous? Quelle sera la base juridique de la période après le 31 décembre? Nous estimons que M. Kabila aura suffisamment échoué et tout devra s'arrêter. Nous devons avoir un pays sans M. Kabila parce que, comme cela a été fait au niveau de Haïti, M. Kabila doit tirer les conséquences de la non-organisation des élections, justement.
Merci, Christian Moreka, coordonnateur de la dynamique des politologues de la RDC. Votre analyse par rapport aux différentes recommandations de la tripartite?
Bon, je pense que à lire le communiqué final, on a le sentiment qu'il s'agit vraiment d'un exercice de funambulisme. On tente, je dirais, presque d'équilibrer les points de vue. D'un côté, il y a cette volonté d'appel à l'enrôlement de la diaspora, qui est déjà une sorte de dépassement du délai, parce que lorsque le communiqué appelle à l'enrôlement de la diaspora, nous sommes déjà dans la logique de dépasser la fin de l'année, parce que l'enrôlement ne pourra pas se faire en 3 mois. Au même moment, lorsque le communiqué rappelle qu'il faudrait un calendrier réaliste qui tienne compte de l'accord, on a comme l'impression qu'il s'agit de deux éléments qui ne cohabitent pas. Et ce jeu d'équilibre-là, je pense qu'il a été fait à dessein pour laisser la porte à une possible renégociation encore entre les acteurs. Donc le communiqué, je dirais, il est mi-raisin, il ne donne pas de réponse définitive.
Oui, dans une interview aujourd'hui à Jeune Afrique, le président du CNSA, Joseph Olenankoy, dément avoir signé le communiqué sanctionnant les travaux de la tripartite. Il affirme ceci, je cite, « Je l'ai paraphé, mais je ne l'ai pas signé. » Monsieur Moleka, cela peut-il poser un problème des droits?
Oh, les juristes pourront bien évidemment discuter évidemment de la chose. Je pense que la classe politique congolaise nous a habitués à de tels scénarios. Et parfois qu'il ne nous honore pas. Je pense qu'à un moment donné, le président Olenankoy devait s'assumer, ou il a signé ou il n'a pas signé. Et ça nous aiderait à avoir plus de lisibilité dans le jeu. Je pense que ce jeu de positionnement ne lui permet pas d'assumer ce qu'il pose comme acte. Le pays a besoin de lisibilité, et en tant qu'acteur majeur, il doit assumer ses choix.
Alors, vous avez dit que la question de l'enrôlement de la diaspora, c'est une question du dépassement. Et vous pensez que la tripartite devait rester silencieuse face au fait que la diaspora n'était pas encore enrôlée?
L'enrôlement de la diaspora est une demande de l'accord. C'est un des acquis de l'accord. Le problème, ce n'est pas le dépassement technique. Le problème, c'est le consensus. Dans la logique du consensus de la CENCO, toutes ces questions-là devaient être abordées entre tous les acteurs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, le consensus est rompu. Il y a un groupe d'acteurs qui estiment que l'accord n'est pas appliqué, notamment l'aile RASOP limitée avec l'honorable Mpola, et un autre groupe d'acteurs qui estime que l'accord est appliqué. Donc nous avons un accord de désaccord, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, cette question qui était une question technique prend cette dimension politique, alors que tout le monde savait qu'on devait enrôler la diaspora.
Moleka, lorsque vous lisez les communiqués sanctionnant les travaux de la tripartite, pouvez-vous affirmer que la tripartite a répondu aux attentes de l'opinion au sujet de la question sur le processus électoral?
Je pense qu'à ce jour, la lisibilité n'est pas très claire. Parce que l'attente aujourd'hui des Congolais, c'est une issue. Nous avons comme l'impression que nous sommes en train de tourner en rond autour des calculs politiciens, mais qui n'offrent pas une lisibilité. La perspective de l'accord de la CENCO, la bonne chose, c'est qu'elle avait offert une perspective qui permettait aux acteurs de voir l'échéance. Aujourd'hui, la perspective, elle est, je dirais presque, nous sommes dans le brouillard. Donc nous sommes en train, dans l'expectative, de voir le jeu des acteurs sans qu'une grande lisibilité soit définie.
Et donc le flou demeure.
Le flou demeure encore.
Alors comment vous entrevoyez la suite?
Bon, je pense qu'il nous faut, de notre point de vue, il faut un sursaut. Il faut un sursaut patriotique des acteurs. La transition démocratique, nous l'avons commencée en 90, et nous n'avons pas pu finir la transition démocratique telle que nous l'avions commencée avec tous les conciliabules de dialogue. Et la guerre de 97 nous a emportés. Je pense que nous sommes à un moment historique important. Il faut que notre classe politique ait un sursaut d'honneur pour nous aider à avoir cet aboutissement lisible.
Et comment concilier la proposition du RASOP pour une transition sans Kabila et les points de vue de la tripartite?
Je crois que cette proposition ne correspond pas avec l'accord déjà, parce que l'accord pose comme principe que le président demeure en fonction. Donc proposer une transition sans Kabila, c'est déjà à un moment donné remettre en question l'accord. Donc on ne peut pas en même temps défendre l'accord et proposer une démarche qui soit contre l'accord. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que tout le monde parle de l'accord, mais tout le monde n'est pas d'accord sur l'accord qu'il faudra appliquer. Il faut qu'à un moment donné, nous dépassions ce jeu de politique pour qu'avec réalisme, nous assumions l'accord totalement ou que nous ne l'assumions pas. Soit nous disons aujourd'hui que l'accord est caduque et qu'il faut établir un nouveau compromis politique, peut-être filer un nouveau rapport de force tel que le président le souhaite, soit nous assumons que l'accord existe et nous l'appliquons totalement. Entre ces deux jeux faux-fuyants-là, nous n'aidons pas la population à avoir une lisibilité claire.
La tripartite n'a pas été formelle au sujet de l'organisation des élections. On ne sait pas aujourd'hui dire si elle a maintenu la tenue de ces élections au mois de décembre 2017, si elle a décidé de les reporter. Est-ce qu'on ne peut pas dire que beaucoup de gens savent qu'il n'y aura pas d'élection, n'est-ce pas, à la fin de cette année? Mais personne n'a le courage d'assumer, d'endosser cela.
C'est ce que je suis en train de dire. Il faut qu'à un moment donné, que la classe politique s'assume et que chacun endosse ses responsabilités. Si nous estimons que nous ne pouvons pas avoir des élections, il faut que nous ayons le courage de conviction et que nous l'assumions en même temps. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que tout le monde est conscient que l'accord tel qu'il a été signé ne peut plus s'appliquer, que le rapport de force a changé et que le compromis ne tient pas. Mais tout le monde parle au nom de ce compromis-là. Et chacun tente de tirer de son côté le compromis. Soit on assume, en disant que le compromis est caduque, et pour ce faire, on établit un nouveau rapport de force qui nous permettra d'avoir un nouveau compromis. Soit on assume que ce compromis bancal, nous le maintenons en l'état jusqu'aux élections. Et c'est une question de responsabilité politique.
Alors si on maintient cette attitude, si on maintient ce flou jusqu'à la fin de cette année, qu'est-ce qui pourrait se passer à votre avis?
Je ne suis pas magicien, je suis simple analyste, mais
les scénarios possibles.
Il y a plusieurs scénarios. Le grand inconnu, c'est le peuple, c'est la misère du peuple congolais. Ce peuple qui nous suit et qui a l'impression que la classe politique a pris en otage l'avenir de toute une nation. Personne ne peut nous prévoir aujourd'hui la réaction du peuple. Vous savez, les grands mouvements de soulèvement populaire n'ont pas commencé avec les leaders de politique. En Tunisie, ça a commencé avec un marchand. Donc, le peuple, on ne le maîtrise pas, on ne le dissout pas. Et je pense que le grand inconnu, c'est le peuple congolais. C'est pourquoi les leaders doivent aujourd'hui s'assumer et offrir au peuple une lisibilité politique qui nous écarte des débats sur la violence et l'usage de la violence comme mode d'expression politique.
Cham Baloumé, nous allons prendre pour vous cette réflexion qui vient de Kinshasa, à laquelle vous allez réagir.
John Kamangou, depuis la ville de Kinshasa. Pour une fois, les politiques congolais ont fait de l'impatience populaire le cadet de leurs soucis et agissent comme s'ils étaient dans une situation normale. Comment comprendre qu'une tripartite dont les résolutions étaient très attendues des Congolais accouche d'un communiqué dont le contenu n'est rien que du déjà entendu et en panne de matérialisation? Pire encore, la proposition d'un calendrier électoral qui devrait être consensuel vient d'être accordée à la CENI dont la demande de 504 jours est encore pendante. D'où la conclusion selon laquelle le gouvernement et le CNSA ont tacitement accepté cette demande. Ainsi, il y a lieu de s'interroger sur la crédibilité des parties prenantes à cette tripartite, car non seulement que l'enrôlement de la diaspora devant concomiter avec celui de Kinshasa n'a pas été respecté et non justifié à ce jour, mais eux-mêmes torpillent encore l'accord qui leur a donné naissance.
Cham Baloumé.
Avant de prendre la question de notre ami, je voudrais réagir à ce que au propos de mon camarade analyste à mes côtés,
Christian Moleka,
en fait, il n'y a pas une crise de consensus entre acteurs politiques en République démocratique du Congo. Il y a en fait une partie de cette classe politique qui veut servir, n'est-ce pas, ou qui est en service, au service des intérêts des individus. Mais il y a une autre partie de ces acteurs, n'est-ce pas, politiques, qui sont, eux, dans la recherche réellement de ce que veut le peuple, de ce que le peuple doit avoir.
Et cette situation, comment vous la qualifiez, n'est-ce pas, une crise?
Ben, écoutez, je ne suis pas en train d'affirmer ici qu'il y a cette crise de consensus que l'ami est en train de souligner en gras. Il y a plutôt des groupes d'individus qui, eux, nous ne savons pas s'ils sont au service de là où ils sont en train de chercher le pouvoir, parce qu'aujourd'hui, ça devient quand même étonnant de voir qu'il y a des gens qui, au lieu de chercher le pouvoir, n'est-ce pas, là où nous l'avons obtenu, c'est-à-dire auprès du peuple, sont en train de les chercher à l'étranger. Donc c'est étonnant, nous avons, nous, la majorité présidentielle, eu notre pouvoir à partir de la population. C'est pourquoi chaque jour, nous sommes en train de repartir vers nos bases respectives, n'est-ce pas, pour évaluer ce que nous avons fait, ce que nous n'avons pas fait, et ce qui devra être fait demain, quand ce peuple va nous renouveler sa confiance.
Et s'il faut répondre à la préoccupation de notre auditeur,
l'ami qui appelle de Kinshasa, je voudrais d'abord dire à l'ami que ce n'est pas ni le CENSA ni le gouvernement qui organise les élections. Il y a une institution technique qui s'appelle Commission électorale nationale indépendante qui organise les élections. Et donc, fallait pas attendre un calendrier qui serait signé par les premiers ministres, par le président du CENSA, ainsi que le président de la CENI. Il y a un calendrier qui sera publié imminemment par la CENI, et ce calendrier devra être signé par Corneille Nanga, lui-même qui est le président de la CENI.
Il a quand même relevé un aspect important, hein, la CENI qui est l'une des parties, elle a déjà fait des projections, elle a parlé des 5-4 jours. Et qu'est-ce que la partie a décidé au sujet de la proposition de la CENI?
Je rappelle à notre peuple que ce n'est pas pour la première fois que la CENI donne cette projection de 5-4 jours.
Et au sujet de ça, qu'est-ce que la tripartite a dit?
La toute première fois que la CENI a fait cette projection, c'était au niveau de la cité de l'Union africaine.
Vous vous rappelez tout ça, on est au courant, mais qu'est-ce que la tripartite a dit au sujet de ces 5-4 jours
évoqués par le président de la CENI? La CENI doit publier les calendriers électoraux.
Les 5-4 jours?
Mais vous comprenez ce que je dis? La CENI doit publier le calendrier électoral. Par rapport aux 504 jours, n'est-ce pas? Parce que vous insistez là-dessus, il y a des contraintes, n'est-ce pas, que la CENI a étalées, n'est-ce pas, lors de cette analyse ou lors de cette évaluation. Et il a été proposé des solutions. Et des solutions ont été, n'est-ce pas, proposés sous forme de questions ou sous forme, en fait, au conditionnel.
Concrètement, qu'est-ce qui a été proposé comme solution?
Nous avons, par exemple, aujourd'hui, il y a cet accord sur lequel nous nous basons aujourd'hui, où les institutions, n'est-ce pas, où les gouvernements et tout se basent aujourd'hui, n'est-ce pas? On dit que cet accord doit être compris dans son entièreté. Et donc, pour l'intérêt personnel, on ne devra pas couper, par exemple, diviser le point 2 de l'article du chapitre 4 à cause de servir, n'est-ce pas, un intérêt ou des intérêts des individus.
Et donc, si on a bien compris, la tripartite a cautionné les 504 jours de Nanga.
Ben, écoutez, ce n'est pas ce que je voudrais vous dire ici, parce que la CENI, elle est indépendante et elle devra publier son calendrier imminemment.
Honorable Pouela, il y a une réflexion pour vous, elle vient de Lubumbashi.
Il a depuis le Mombashi dans le Haut-Katanga. Une vaste plage, selon moi. Il me pose toujours la question de savoir avec quelle facilité le CENSA fonctionne-t-il, car la proposition de loi qui pourrait lui donner tous les pouvoirs avait été retirée. On a estimé qu'il était inopportun de l'avorter pour 3 mois restants pour son existence. Le pays va très, très, très mal, et à la lire où vont les choses, le troisième dialogue, quoi qu'il ait été par certains, est tout opportun pour régler la question inter-congolaise.
Vous allez nous excuser pour la qualité de ce son. Honorable Pouela.
Effectivement, nous avons eu du mal à bien cerner les contenus.
Il dit, à mon avis, le pays va très mal, à l'allure où vont les choses. Le troisième dialogue, quoique rejeté par certains, je le trouve opportun pour définitivement régler la question intercongolaise.
Oui, je suis d'accord avec les compatriotes là où il dit que cette tripartite, c'est une vaste blague. C'est comme si nous nous étions concertés, parce que lorsque, dès le départ, nous l'avions dit, nous ne croyons pas si bien dit, parce que lorsque cette tripartite qui devrait, dans l'esprit et analyser l'esprit et la lettre, dans l'esprit et la lettre de l'accord, évaluer le processus et donner le calendrier, cela n'a pas été fait. Le CNSA devrait suivre l'accord sur tous les plans. Les médias qui sont encore fermés, la décrispation par la libération des prisonniers emblématiques, ce qui n'est toujours pas fait. Par contre, certains amnistiés dont les poursuites ont été annulées croupissent encore à Makala, et ça nous le savons. Donc je pense que nous ne pouvons pas donner une quelconque caution à ce qui s'est passé en fait au niveau ce qu'on a appelé comme tripartite. Le troisième dialogue pour nous n'est pas à l'ordre du jour. Hein. Dialogue sur dialogue ne vaut. Nous avions eu un premier dialogue, il y a eu un deuxième dialogue. Les résolutions, les recommandations, l'accord de ce deuxième dialogue, c'est ce qui lie la République, c'est ce qui régente la République, qui devrait être appliqué. Le pouvoir s'est arrangé pour, au fait, s'aborder cet accord. Aujourd'hui, on veut nous ramener à un autre dialogue. Nous estimons que cela n'est plus à l'ordre du jour. Lorsque M. Chambaloum, que je salue, dit que leur pouvoir, il est tiré du peuple. Mais de quel peuple parle-t-il? Les élections auraient dû être organisées depuis longtemps. Cessez de vous moquer du peuple congolais, quand même. Où avez-vous déjà entendu des gens qui tirent leur légitimité du peuple, mais qui refusent ou qui arrangent, qui multiplient les subterfuges pour ne pas aller rencontrer ces peuples? Avez-vous déjà vu un pouvoir qui, semble-t-il, détient une majorité, prenant à l'Assemblée nationale, mais où on refuse que les députés aillent au vote? Ça, vous appelez ça aimer le peuple? On proclame une chose et on fait son concert? Allez, arrêtez cette blague-là, parce que le peuple congolais souffre trop. Nous avons des fonctionnaires qui ne sont pas payés. Le taux budgétaire n'est pas respecté. Le pays est sans ceci dessous. Vous avez une CENI qui est pratiquée, qui obéit au doigt et à l'œil du pouvoir. Avez-vous vraiment, connaissons-nous une centrale électorale indépendante dans notre pays? En vertu de quoi peut-on parler de 504 jours? Donc, je salue encore le pasteur Ngoï Moulunda, dont on a décrié le travail. Mais lui, au moins, en une année, a enrôlé. La même année, il a organisé des élections. Donc, Ngoï Moulunda est un super homme. Mais l'abbé Malumalu a fait autant. Donc, M. Nanga veut nous dire que c'est lui qui vient inventer la roue. Je pense que nous devons avoir un peu de respect pour ce peuple qui a trop souffert. Et moi, je pense que si ceux qui sont dans la Kabylie aujourd'hui, s'il leur reste un peu de dignité, s'ils ont un peu de respect pour notre pays, ils doivent condamner ce qui se passe. Nous devons organiser des élections. Aujourd'hui, nous avons une place à la Commission des droits de l'homme des Nations Unies. N'avez-vous pas appris qu'on a arrêté des étudiants qui manifestaient parce qu'ils sont contre les 504 jours proclamés par la CENI? Le professeur Toumba Luaba a été attaqué dans sa maison, dans sa résidence, hier la nuit. Est-ce que c'est ça les droits de l'homme? Sans justement cette vraie décrispation, sans la tolérance, sans libérer l'espace médiatique et l'espace politique avec la liberté pour les partis de l'opposition de manifester, je pense que nous sommes en train de rêver. Nous ne sommes pas dans une démocratie et la décrispation n'est pas encore à l'ordre du jour. Qu'on cesse de distraire notre peuple.
Merci Christian Moleka. Il y a aussi une réflexion pour vous et elle vient de Lissala.
Depuis l'Issala, dans la province de la Mongala, ingénieur Félix Moussaka. Je crois que toutes ces parties ont failli à leur mission. Le premier ministre qui réaffirme sa détermination d'organiser les meilleures élections de l'histoire du pays. Ma question est de savoir, est-ce que c'est le gouvernement qui organise les élections ou bien c'est la CENI? Ces parties recommandent à la CENI de publier un calendrier électoral réaliste. Mais qu'est-ce qu'elles ont réellement discuté dans leur pourparlers? Les rencontres étaient juste pour bousiller la caisse de l'État et ne pas discuter de l'essentiel. Comment la CENI pourrait donc lancer le roulement de la diaspora au moment qu'elle ne dispose pas d'un budget conséquent? Tout ça, c'est pour passer le temps et violer davantage l'accord du 31 décembre 2016. Nous, peuples congolais, attendions les élections dans les délais convenus dans l'accord de la 16 Sylvestre.
Christian Moleka.
Bon, les élections, tout le monde le sait, c'est la CENI qui organise les élections, mais la CENI ne le fait pas seule. Je crois que c'est un processus complexe qui fait appel à beaucoup d'acteurs. Il y a une responsabilité de la communauté internationale qui nous a promis de mettre une enveloppe pour les élections. Il y a un accompagnement de la MONUSCO en termes de logistique. Il y a un accompagnement financier du gouvernement. Il y a un accompagnement législatif du Parlement au travers des lois. que l'on doit doter la CENI pour mettre en place, c'est tout ce corps-là qui participe au travail de la CENI. Donc, quelquefois, se limiter à ne voir que la CENI, ce n'est que voir une partie du travail, puisqu'il y a tout un ensemble de corps qui doivent accompagner le travail de la CENI. Sans les lois, sans les finances, sans la logistique, la CENI ne sait rien faire.
Oui, parce que la tripartite n'a pas permis, n'est-ce pas, de clarifier l'horizon, qu'est-ce que vous vous proposez?
Je pense que la tripartite aujourd'hui nous... Attendons voir ce que la CENI va donner comme calendrier. Donc, puisque la tripartite appelle à la CENI à nous donner un calendrier, attendons voir dans ce délai bref quel type de calendrier la CENI pourra nous présenter. Le souhait, c'est que ce serait un calendrier qui nous permette d'avoir une consensualité. Parce que le but, ce n'est pas d'avoir des élections pour des élections. Le but, c'est d'avoir des élections apaisées, transparentes, crédibles. Et donc, si le calendrier lui-même... Il ne faut pas oublier que nous avions déjà eu un calendrier. L'abbé Malumalu nous a donné un calendrier qui a été contesté.
Deux calendriers
qui ont été contestés. Donc, il est possible que nous ayons un calendrier qui sera à nouveau contesté. Et de cette contestation-là, naîtra encore de nouveaux conciliabules pour avoir un calendrier qui peut-être sera accepté. Donc le problème, ce n'est pas le calendrier uniquement, c'est un calendrier qui nous permette d'avoir un consensus.
Et au sujet de cette proposition sur le troisième dialogue?
La problématique du dialogue au Congo, c'est qu'il est devenu, le dialogue est devenu un mécanisme de participation au pouvoir. Donc c'est une élite qui s'est réunie pour se répartir les rôles et de mettre à côté les questions de gouvernance. Parce que le vrai problème aujourd'hui, c'est qu'on a le sentiment que les questions de gouvernance ne sont pas au cœur des enjeux politiques aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, tout le monde en a marre de dialogue, parce que quand on dit dialogue, dans la tête, on dit partage de poste. Alors que les dialogues, les concertations devaient nous amener à régler les problèmes de fond. Il est donc logique qu'on dispose encore des espaces de concertation. Vous l'appelez comme vous voulez, tripartite, concertation, dialogue, mais il faut qu'il y ait des sas qui permettent aux acteurs de parler, de se parler, soit par le biais de la CENI, soit par le biais de l'accord, soit par le biais de la CENSA, mais des sas doivent exister pour permettre ces échanges-là permanents, si pas au niveau institutionnel, en dehors des institutions. Mais c'est important qu'il y ait ce cadre-là. Mais maintenant, on peut l'appeler comme l'on veut, tant que ça ne nous aide pas à avoir ce partage des pouvoirs et mettre à côté les questions de gouvernance.
Et la suite du processus électoral, comment vous l'entrevoyez après cette tripartite?
Le processus électoral, c'est d'abord un processus des acteurs politiques. Donc les premiers intéressés sont les acteurs. Ça dépendra du comportement des acteurs politiques. Si les acteurs politiques participent tous à intégrer le calendrier qui sera mis en place, le processus sera, je dirais, lisible. Mais si les acteurs participent à contester le calendrier et donc à contester le programme, nous serons à nouveau repartis pour la turbulence. Tout est question de jeu des acteurs.
Et Cheikh Mbaloumé, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral après cette tripartite?
La suite du processus électoral, écoutez, pour moi, le processus évolue. La CENI a déjà enrôlé plus de 42 millions d'électeurs aujourd'hui. Les 42 millions qui représentent aujourd'hui l'électorat de la Côte d'Ivoire 9 fois. Cet électorat de 42 millions pour le Congo aujourd'hui, ça représente également 20 fois l'électorat du Congo Brazza en face. Cet électorat de 42 millions pour le Congo à la date où on parle représente 80 fois l'électorat du Gabon. Et donc c'est un processus qui évolue, même si à gauche et à droite, il y a des gens qui, je répète, ne veulent pas souder les coudes, n'est-ce pas, à la CENI pour que nous arrivions à ces élections. Parce qu'ils n'en veulent pas.
Le processus, comme vous le dites, évolue, mais sur fond de crise politique, n'est-ce pas qu'il faut en tenir compte?
Ben, d'abord, il faut comprendre que c'est une crise qui est alimentée soit de l'extérieur, soit de l'intérieur, par des gens au service de certaines personnes. Vous avez la communauté internationale qui a souscrit pour 172 millions de dollars, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ils n'ont rien donné à part l'appui de la MONUSCO, n'est-ce pas? Ils n'ont rien donné,
Elle vous demande de publier le calendrier
électoral. Écoutez, mais cet argent-là, ce qui étonne, c'est que cet argent est en train d'être décaissé.
par ses partenaires étrangers pour le processus électoral et ils sont en train de financer les mouvements citoyens, ils sont en train de financer les réseaux sociaux pour intoxiquer les gens, ils sont en train de financer des ONG qui n'ont en principe rien à voir avec le processus et sans l'avis de la CENI.
Et on va pour là, après la tripartite, comment vous entrevoyez la suite du processus électoral en RDC?
Merci beaucoup. La suite du processus électoral en RDC est biaisée. Avec une CENI, on dirait qu'elle ne sait pas ce qu'elle doit faire, qu'elle ne connaît pas très bien son rôle, qui ignore qu'elle est indépendante, qu'elle est autonome, qu'elle devrait s'assumer clairement dans le processus électoral. Nous sommes vraiment sidérés de constater que le CENSA, le fameux CENSA, avec son dirigeant qu'on a débauché au sein du rassemblement, n'est là en fait comme une mascotte. Donc c'est vraiment un faire-valoir. Il y a eu, semble-t-il, une première tripartite à laquelle il n'a pas pris part. On a vu un membre du gouvernement signer. Et il y a une deuxième tripartite à laquelle il ne prend, enfin, il semble-t-il, la plupart, mais à laquelle, enfin, dont il n'a pas signé le communiqué final. Mais moi, je suis en train de me demander, est-ce qu'il comprend ce qu'il fait ou pas? Et je pense que moi, ce qui me reste, c'est de démissionner, de tirer des conséquences de cela et récupérer ce qu'il peut encore récupérer comme crédit dans l'opinion.
Honorable Poula,
oui.
Et vous êtes juriste, j'ai posé la même question à Christian Moleka. Le fait que le président du CNSA, M. Olengankoy, affirme n'avoir pas signé les communiqués consacrant, n'est-ce pas, à la fin des travaux, mais plutôt paraffer ces communiqués, est-ce que ça ne va pas poser un problème de droit?
Ça pose un sérieux problème de droit parce que avec cela, le CNSA n'est pas engagé. Parce que le CNSA devrait être engagé par son autorité qui l'est représentée dans ce processus, dans la tripartite. Et le CNSA n'ayant pas signé cet acte, à ce qui concerne le CNSA, ce communiqué ne peut pas lui être opposé. Cet acte lui est inopposable parce qu'il devrait s'engager par une signature. Donc nous savons que justement, le CNSA donne du crédit à ce processus. C'est le CNSA qui devrait, qui aurait dû présider. Et cela n'ayant pas été le cas, moi je pense que cet acte est nul et est non avenu et de nul fait, quoi.
Et en conclusion, qu'est-ce que vous proposez pour que nous sortions, n'est-ce pas, de cette sorte de flou, pour que nous puissions aller aux élections crédibles et démocratiques?
Pour que nous allions aux élections crédibles et démocratiques, je vais être assez radical, mais il le faut. Je pense que M. Kabila doit tirer toutes les conséquences. Il lui appartient de quitter comme l'avait fait M. Philippe Martelly en Haïti. Et M. Nanga, c'est le premier ennemi de la démocratie, le premier qui ne veut pas des élections, qui obéit justement au chemin de la majorité. Je pense qu'il lui appartient de tirer les conséquences de son échec parce qu'il y a longtemps qu'il est là-bas. Il aurait dû tout mettre en place pour que nous ayons des élections. Et le gouvernement aussi. Je pense que, heureusement que nous sommes à nouveau à l'Assemblée nationale, une motion de censure est en préparation parce Merci. Que toutes les institutions auront montré leurs insuffisances.
Monsieur Christian Moleka, en conclusion, la résolution de cette crise politique passerait par quoi?
Il faudrait créer un consensus politique. Vous voulez l'appeler dialogue, concertation, mais il faudrait créer un consensus politique.
Un consensus politique, serait-il possible dans un climat de méfiance
Mais ça fait partie du processus de négociation. Donc on commence toujours par un point d'escalade, puis on finit par un point médian qui est un point de négociation. Donc il faut recréer un minimum de consensus politique pour que nous ayons un calendrier qui permettrait à tous les acteurs de se mettre d'accord.
Et la communauté nationale peut jouer quel rôle par rapport à cela?
Bon, je pense que d'une certaine manière, le pays a déjà reçu beaucoup d'émissaires. Donc je crois qu'il y a certainement dans certaines officines des gens qui vont pousser pour que nous puissions avoir un consensus soit autour de l'accord, soit autour d'un nouvel accord.
Hicham Baloumé, votre conclusion, que faut-il faire pour sortir de cette crise?
Pour moi, ma conclusion, c'est que la classe politique actuelle doit s'assumer. On doit respecter la parole donnée, on doit respecter sa signature. On a signé un accord, on doit le respecter, on ne doit pas l'interpréter à partie ou à moitié. Ça, c'est irresponsable, il faut s'assumer.
Merci, c'est la fin de cette émission. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la technique et à Alain Irung qui a réalisé et coordonné cette émission sous la supervision des PL équipés La Mondo. À la présentation, Guy Matré. Merci et bon suite de programme sur Radio Capi.